vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est minuit, ici à Paris, 22h temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 24h en France. On va décortiquer ensemble pendant une demi-heure l'actualité française et rien que l'actualité française à tête reposée.
Stéphane Genest.
Et d'abord le journal avec à la une, J-3 avant le premier tour des élections législatives en France. Et ce jeudi soir se tenait le dernier débat de cette première partie de campagne. Dossier complet dans ce journal. On revient aussi sur le premier anniversaire de la mort du jeune Naël à Nanterre, tué par un policier près de Paris. Et puis on ira au cinéma puisque le film Le Comte de Monte Cristo sort en salle ce vendredi.
RFI.
Plusieurs associations tirent le signal d'alarme, celui du retour d'un racisme décomplexé en France. La Commission nationale consultative des droits de l'homme va également dans ce sens. Elle a publié ce jeudi son rapport pour 2023 sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et le constat est clair, augmentation des crispations identitaires, progression sensible de l'antisémitisme et rejet de l'immigration. Petite phrase, regarde de travers, insulte beaucoup, dénonce une libération de la parole en cette période de campagne électorale en vue des législatives dont le premier tour se tient dimanche. Preuve en est, des journalistes ont reçu des courriers haineux et racistes chez eux. Sur les réseaux sociaux, les messages à caractère raciste se multiplient. Les cas et les situations sont loin d'être isolés. Cet reportage signé Laurence Théo.
Il est assis sur un banc, une main posée sur l'autre. Bala est guinéen et travaille dans une station essence. Il dénonce le racisme ordinaire de certains clients.
Ils me disent toujours, on est chez nous ici quand même, parce qu'il faut prépayer avant de se servir. Alors ils trouvent toujours ça anormal. Mais on est bien chez nous ici, parce que c'est un noir derrière la caisse.
Vous n'êtes pas chez vous est une insulte qui revient souvent.
Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Ou des fois, en tournant la tête, ils font un cri d'animal. C'est terrible, c'est comme ça. Tu es un animal, t'es pas un être humain.
En robe d'été colorée, dans un premier temps, Maryse refuse de parler. Puis elle se ravise. Le racisme, elle connaît.
Dans le métro, il y a une personne à qui j'ai donné à soi qui m'a dit carrément « Non, je ne m'assois pas. Et quand vous rentrerez chez vous, je m'asseyerai. »
Chez vous, dans votre pays?
Dans mon pays, voilà. Ça m'a fait très mal au cœur. Mais on vit ça au quotidien. Hein.
Bala hausse les épaules. Il explique que le propos raciste est devenu banal.
Les yeux dans les yeux, et puis voilà, il vous le balance facilement en rigolant.
Maryse, comme Bala, tous deux craignent un racisme exacerbé avec la montée de l'extrême droite.
Et ce jeudi soir se déroulait le dernier débat d'avant le premier tour des législatives. Trois participants, Jordan Bardella du Rassemblement National, Gabriel Attal, le Premier ministre, et Olivier Faure du Parti Socialiste pour représenter l'Alliance de la Gauche, le Nouveau Front Populaire. Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, qui est revenu sur les propos tenus par Marine Le Pen hier, estimant qu'Emmanuel Macron était le chef des armées à titre honorifique. Et ça, ça a quelque peu déstabilisé Jordan Bardella.
Le message qui a été envoyé par Madame Le Pen est clair. Si le Rassemblement National venait à gagner cette élection, il y aurait une forme de dispute entre le Premier ministre et le Président de la République pour savoir qui a le rôle de chef des armées. C'est un message envoyé aux puissances mondiales, au monde entier, qui est un message très grave pour la sécurité des Français et pour la souveraineté.
Alors Jordan Bardella, il faut peut-être vous expliquer sur cette déclaration de Marine Le Pen.
Je ne suis pas venu répondre aux questions du Premier ministre
là,
sortant. Donc le Président de la République, il est de coutume le
monde,
chef des armées. C'est-à-dire
que
dans
si
la Constitution,
national gagne,
il a la charge...
Il n'y aura plus de chaîne de commandement claire.
Mais pas du tout.
Mais
il
si,
a la charge,
c'est ça le message qui est envoyé.
Il a la charge à la fois de la signature des traités
ça veut dire quoi,
et potentiellement du déclenchement de la guerre. Moi, je suis respectueux de la Constitution et la Constitution stipule que, évidemment, celui qui a la responsabilité de la défense nationale, c'est le Premier ministre. Mais peut-être que vous devriez lire
mieux,
lire davantage la Constitution
française. Qu'est-ce que ça veut dire responsable de la défense nationale ?
Et cette situation politique en France est suivie à l'étranger, notamment par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'est dit convaincu que le nouveau gouvernement français, qui sera issu des législatives, maintiendrait son soutien à l'Ukraine face à la Russie. Et à son arrivée au Conseil européen ce jeudi où il est invité, le président ukrainien a espéré que la France, sans la nommer d'ailleurs, reste une alliée. Écoutez.
Bien sûr, une élection, c'est une décision. Une décision d'un côté ou d'un autre. On ne peut pas faire pression sur les électeurs. Et on ne le veut pas. C'est ça la liberté. C'est au passage pour ces valeurs que nous nous battons. Donc c'est pour ça que j'espère que la plupart des pays resteront du bon côté de l'histoire, de notre côté.
Des propos recueillis par Julien Chavanne pour RFI, minuit 5 ici à Paris. Et c'était il y a un an, jour pour jour. Le jeune Naël Merzouk, 17 ans, mourait à cause d'un tir à bout portant d'un policier. Les faits se sont déroulés lors d'un contrôle routier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, après une course-poursuite avec la police, contrôle qui avait été filmé et dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. C'était là le point de départ de plusieurs nuits de révoltes urbaines, notamment dans la commune d'Asnières-sur-Seine, à quelques kilomètres au nord de Paris. Et un an plus tard, Camille Ursy, la colère des quartiers nord est toujours aussi forte.
Dans le quartier des Mourinous, les vestiges des révoltes urbaines sont encore visibles. Zouer Echetouani, figure des quartiers nord d'Asnières, évoque le tribunal administratif, incendié le 29 juin 2023, mais pas seulement.
Des routes encore brûlées, une poste qui n'est toujours pas réhabilitée, avec des portes coupe-feu.
Pour celui qui se fait appeler Zo, la mort de Naël était la goutte d'eau qui a fait exploser le vase de la colère des banlieues.
Quand on parle aux jeunes, quand on leur demande d'où ça vient, mais ils ne me parlent même pas de Naël. Là, on parle essentiellement du manque de structure dans les quartiers, du manque de concertation, du manque d'activité. La seule réponse qui a été donnée par la mairie, c'est une réponse policière. Et ça, c'est un problème qu'on a du mal à déjà expliquer, puis à faire comprendre aux élus.
Un manque de dialogue qui plonge le quartier dans une impasse.
On ne peut pas tout le temps venir dire aux gens, on sait ce qu'il vous faut, sans vivre avec eux, sans connaître leurs problématiques et sans connaître non plus leur jeunesse. Et ça, c'est quelque chose qui rend la fracture encore plus visible et encore moins colmatable.
Il craint alors les prochaines révoltes qu'il imagine encore plus violentes.
Le reportage de Camille Ursy pour RFI. L'actualité peut aussi être un peu plus légère. Partons au cinéma avec l'un des films français les plus attendus de l'année, Le Comte de Monte-Cristo. Il sort en salle ce vendredi, c'est exceptionnel puisque les films sortent d'habitude le mercredi. Raison stratégique car la fête du cinéma est ce week-end, l'occasion peut-être de profiter de plus d'entrées. Films d'Alexandre de la Patellière et de Mathieu Delaporte qui ont aussi réalisé Les Trois Mousquetaires il y a un an. Et pour produire Le Comte de Monte-Cristo, autre roman très populaire d'Alexandre Dumas, ils ont bénéficié d'un budget de 40 millions d'euros, Sophie Torlotin.
Le jeune marin Edmond Dantès s'apprête à devenir capitaine d'un navire marchand et épouser celle qu'il aime. Mais trois rivaux jaloux vont se liguer pour l'envoyer en prison. Quand il s'en évade miraculeusement 15 ans plus tard, Edmond Dantès met la main sur un immense trésor et va mettre à profit sa fortune colossale pour assouvir sa vengeance.
Je suis innocent ! J'ai rien fait, je suis innocent !
Alexandre de la Patellière et Mathieu Delaporte ont fait des choix dans les 1400 pages du roman d'origine, mais ils en gardent l'esprit. Un savant mélange d'histoire romantique, de récits d'aventure et de réflexion sur la noirceur humaine. Porté par Pierre Ninet, impeccable dans le rôle-titre, ce conte de Monte-Cristo, bien que se déroulant au 19e siècle, se révèle très moderne. Alexandre de la Patellière.
C'est le récit aussi du pouvoir de l'argent, des fake news et du destin d'un homme richissime, complètement individualiste. C'est un anti-Robin des Bois. Il y a quelque chose de très contemporain dans sa manière de se venger, dans sa manière de créer ce théâtre des illusions. Le personnage en lui-même et son parcours, il est très moderne.
Je suis le comte de Monte-Cristo.
De quoi séduire les spectateurs du 21e siècle qui goûteront ce divertissement français populaire et de qualité.
Le comte de Monte-Cristo qui sort donc en salle ce vendredi. Merci beaucoup Sophie Torlotin. Minuit 8 ici à Paris. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024. C'est la fin de ce journal mais on reste ensemble pour la seconde partie de 24 heures en France.
24 heures en France. Stéphane Genest.
Et on l'évoquait dans le journal il y a un instant, la dernière ligne droite avant le premier tour des élections législatives dimanche. Les candidats qui jettent leur dernière force dans cette campagne, comme Clément Beaune, ancien ministre et candidat Renaissance à Paris. Il était l'invité de Nathalie Amar dans RFI Matin.
Bonjour Clément Beaune.
Bonjour.
Vous êtes candidat Renaissance à Paris. Pour oui. Marine Le Pen, si cohabitation il y a, le président de la République ne pourra envoyer de troupes en Ukraine car, dit-elle, son rôle de chef des armées est honorifique. Comment réagissez-vous à ces propos ?
Marine Le Pen montre une nouvelle fois à la fois son cynisme, son opportunisme, sa méconnaissance ou son irrespect des institutions. Marine Le Pen, elle a été par trois fois défaite aux élections présidentielles, par trois fois candidate aux élections présidentielles. Et donc, elle devrait savoir ce que sont les compétences dans notre Constitution, quel que soit le titulaire du poste, d'un président de la République qui est chef des armées. Chef des armées, ça n'est pas symbolique, d'abord par respect pour nos militaires, pour nos armées précisément. Et je pense qu'avoir ce genre de débat au moment où la guerre est sur notre continent, au moment où nous avons dans le monde un certain nombre d'opérations extérieures qui sont en cours avec des femmes et des hommes de nos armées qui risquent leur vie tous les jours à l'autre bout du monde. C'est non seulement irrespectueux, mais c'est dangereux. Et ça montre ce qu'est le Rassemblement National, c'est-à-dire un parti qui n'a pas le sens de l'État, qui n'a pas le sens des institutions, qui veut faire des coups. Et Marine Le Pen n'est pas à la hauteur de la situation.
Jamais, en tout cas, l'extrême droite n'avait semblé si proche du pouvoir. En France, je l'ai dit, vous êtes candidat à Paris, c'est un peu une exception, hein, puisque le RN y a réalisé ses plus faibles scores. À l'échelle de la France, les candidats Renaissance, Clément Beaune, doivent-ils appeler à faire barrage au RN? Par exemple, appeler à voter pour un candidat du nouveau Front Populaire en cas de triangulaire où ils seraient les moins bien placés?
Moi, j'ai été très clair.
Ça sera l'enjeu du second tour.
Oui, alors d'abord, il y a un premier tour. Vous permettrez, parce que j'aime pas beaucoup cette petite musique qui dit, en quelque sorte, il n'y a pas de choix. Moi, je suis à Paris, par exemple, on a des choix. Et le nouveau Front Populaire n'est pas, en l'occurrence, le seul parti qui serait auréolé de la morale et de la lutte contre l'extrême droite. Moi, je me suis toujours engagé là-dessus et je ne recevrai pas de leçons là-dessus. Et j'ai toujours été très clair.
Mais si le cas se présente, en théorie, sur une position de principe.
Oui, au niveau national, sur une position de principe, je le dis et je le redis, il faudra toujours, selon moi, faire barrage au Rassemblement National. Quitte à se désister, quitte à voter pour quelqu'un d'autre, quel que soit le candidat. Pourquoi? Parce que la menace principale, je ne parle même pas du plan moral, je parle du plan pratique, concret, réel, c'est l'extrême droite et c'est le Rassemblement National au pouvoir. Ouais. Vous l'avez dit, il faut faire attention, les sondages sont toujours fragiles, mais le risque existe, le risque est sérieux. Et donc, moi je ne veux pas d'une majorité, c'est le premier des combats, qui soit confié au Rassemblement National.
Alors vous êtes très clair là-dessus, hein, vous faites partie effectivement de je crois quelques 200 personnalités qui se sont prononcées clairement pour ça. Pour quelles raisons Emmanuel Macron, qui n'a cessé de dire depuis 2022 que l'extrême droite était un danger pour le pays, qui a été réélu aussi, notamment grâce aux voix de la gauche, à ce moment-là, pour quelles raisons n'appelle-t-il pas, lui, aujourd'hui, clairement, les candidats de la majorité à faire barrage au Rassemblement National? Ça donne l'impression un peu que la majorité se résout presque arriver Jordan Bardella à Matignon.
Non, on est à trois jours du premier tour. Je ne suis pas le porte-parole du président de la République. Le président de la République ou les représentants de la majorité auront à s'exprimer. Mais moi, je vous le dis parce que quand on est un responsable politique au sens plein du terme, quelqu'un qui rend des comptes, quelqu'un qui a des convictions, je vous dis la mienne, elle n'a jamais changé, elle ne changera pas. Ceci étant dit, parce que je pense qu'il faut être nuancé, cohérent, précis, eh bien, je trouve que la France insoumise, dans cette alliance, reste un point, pour moi, de déshonneur de l'alliance du nouveau Front Populaire. C'est la raison pour laquelle, tout en venant du centre-gauche, d'une gauche social-démocrate, je ne peux pas me résoudre à cette alliance, tant par la démagogie du programme que par le côté de plus en plus anti-républicain de certains à la France insoumise qui sont tous investis par le nouveau Front Populaire.
Oui, mais est-ce que pour autant...
Quand il faut choisir, il faut choisir. Et quand il faut choisir, on priorise entre les dangers.
Est-ce que pour autant, comme l'a fait le chef de l'État depuis le 9 juin au soir, on peut renvoyer dos à dos les deux blocs en disant ce sont les extrêmes et si ce n'est pas moi, eh bien ça sera le chaos, ce sera la guerre civile.
Je ne peux pas vous le dire plus clairement. La priorité des dangers commande de faire d'abord barrage au Rassemblement National. C'est clair. Parce que on peut avoir des propos d'estrade. La France insoumise et le Nouveau Front Populaire, je le dis aux auditeurs, ne sera pas majoritaire, ne seront pas majoritaires dans ce pays. On peut se raconter des histoires, ce ne sera pas le cas. Bon, en revanche, faire une alliance avec la France insoumise, je pense néanmoins que c'était indigne et déshonorant pour le PS comme pour les écologistes. Mais mon combat, ça c'est leur problème, il est très clair là-dessus. Et moi, je ne parle pas par excès. Je n'aime pas beaucoup ça. Et donc, je pense qu'on est dans un moment où il faut plutôt apaiser. Il faut pas agiter des menaces. Il faut plutôt apaiser. Il faut plutôt réconcilier. Il faut plutôt rassembler. Moi, je suis un homme de nuance, un homme de modération. Et aujourd'hui, c'est peut-être la plus grande des radicalités. Je la défends.
Ouais, vous dites alliance indigne avec la France insoumise. On sait que Jean-Luc Mélenchon est assez contesté à gauche. En tout cas, s'il devait s'imposer comme personnalité pour Matignon, on sait qu'il y a énormément de résistance. Certains ont dit clairement, d'ailleurs, que ça ne pouvait pas être lui. Dans votre camp, Clément Beaune, comment estimez-vous que le chef de l'État aborde cette campagne? Est-ce que pour être clair, il lui fait du tort à cette campagne et à son camp quand il dit, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a un risque de guerre civile, quand il parle du changement de sexe en mairie, quand il s'impose quelque sorte dans le débat public, alors que le scrutin du 9 juin a dit
je rebondis quand même une seconde sur un point, parce que ce que vous dites sur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, c'est intéressant. On fait comme si, dans l'alliance du Nouveau Front Populaire, le seul problème était Jean-Luc Mélenchon. Enfin, moi, je suis candidat à Paris.
C'est un point de fixation, en tout cas,
d'accord,
pour la suite.
D'accord, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais je suis candidat à Paris, j'ai un adversaire socialiste. Il est allié sous la même bannière avec Madame Obono, avec Madame Chikirou, avec Monsieur Caron, avec Madame Simonet. Ce ne sont pas des gens qui incarnent la modération, la lutte contre l'antisémitisme et le respect de la République. Pas du tout. Donc la France insoumise a un problème qui est beaucoup plus large que Jean-Luc Mélenchon. C'est trop facile de dire c'est que Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes ont choisi Caron, Obono, Simonet, Chikirou. Voilà, pas que Mélenchon. Et quant à la campagne du chef de l'État, oui, moi je crois qu'il faut qu'on soit à nous aussi de ne pas nous tourner tout le temps vers l'Élysée, vers Matignon. Moi je suis un candidat qui a une expérience gouvernementale, qui est libre, qui assume ses choix, qui a sa cohérence, qui quand il n'est pas d'accord, dit qu'il n'est pas d'accord. Je l'ai dit sur la question des droits trans, je l'avais dit sur les propos homophobes d'une collègue du gouvernement. Voilà, j'ai cette liberté. Et je l'assume, je cherche pas à commenter les commentaires des autres.
Quelle issue, Clément Beaune, si au soir du 7 juillet, hein, on se projette un peu, je sais qu'il y a le premier tour avant, mais on se projette
oui,
quand même sur
le
7 juillet.
On vote le 30 juin.
Si aucun des trois blocs n'obtient la majorité absolue, que se passe-t-il? Que proposez-vous dans le camp présidentiel?
Mais je vais vous dire, les choses sont assez simples. Il n'y a qu'un parti, malheureusement, qui est en situation d'avoir une majorité, si j'en crois les sondages, c'est le Rassemblement National. Le premier combat, c'est de l'empêcher. S'il y a ensuite une possibilité d'empêcher le Rassemblement National, ce sera en construisant une majorité alternative et forcément qui réunit des gens différents. Et je veux, moi, être un acteur de cette majorité, de cette coalition des modérés et des responsables qui va englober des socialistes, des écologistes, des centristes, des gens qui suivent Édouard Philippe, peut-être des républicains modérés. Mmh. Et c'est ce que font les autres pays européens. On est sur Radio France Internationale. C'est ce que font d'autres pays et d'autres pays européens en particulier.
Oui, mais
ça
justement,
marche.
Puisque vous y faites allusion, on n'a pas en France la même culture politique
bien
du
sûr.
Compromis qu'en Allemagne, par exemple. Comment est-ce qu'on arrive à réunir le 8 juillet des courants politiques qui se sont combattus au premier
Les choses sont assez simples. Pour ceux qui vont siéger au Parlement, c'est ce que je veux faire. Soit on dit, bah écoutez, c'est trop compliqué, c'est pas notre culture, nous on est français, on est différents des autres. Soit on essaye, on se retrousse les manches et on dit, la situation est suffisamment grave pour qu'on fasse cet effort collectif et qu'on surmonte nos traditions et nos blocages. Voilà, si on peut pas avoir fait toute une campagne en disant que le danger de l'extrême droite est réel et ne pas faire différemment, c'est notre responsabilité collective.
Clément Beaune qui était l'invité de Nathalie Amard dans RFI Matin. Et on va sur le terrain dans 24 heures en France, tout près de Paris, dans les Yvelines. Nous allons dans la 7e circonscription du département où l'on mène campagne entre une ancienne ministre d'Emmanuel Macron, un candidat Les Républicains allié au RN et un même candidat issu du Nouveau Front Populaire. Reportage de campagne signé Raphaël Delvolvé.
Arrêtez de crier, s'il vous plaît.
D'habitude si tranquille, l'ambiance sur les marchés est lourde.
Et quand on fait du racisme anti-blanc, madame, c'est quoi pour vous?
Qu'est-ce que ça veut dire, le racisme?
Et qu'est-ce que ça veut dire, des ratonnades, madame, dans ces cas-là? Je vous retourne le propos.
Ce vif échange entre sympathisants du Rassemblement National et du Nouveau Front Populaire n'a rien de surprenant. La campagne très courte échauffe les esprits et rebat les cartes. Le RN, arrivé en tête ici aux Européennes, croit pouvoir remporter cette circonscription pour la première fois de l'histoire. Leur candidate, la cuisinière guadeloupéenne Babette de Rosière, également soutenue par Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains.
Je pense que ça sent bon. Moi, en tant que cuisinière, je peux vous dire que je connais les bonnes odeurs. Il est où? Il est passé où, Macron? Il se cache? On ne va pas quand même laisser le fond de gauche nous bouffer. Moi, je rêve d'être au deuxième tour contre le Front Populaire. Voilà.
Et si son rêve se réalise, ce sera un duel face à un candidat inattendu, un ancien ministre d'Emmanuel Macron passé à gauche pour les législatives, Aurélien Rousseau.
Moi, je sais sur quoi je suis engagé, sur 10 points du Nouveau Front Populaire. Et le premier de ces points, c'est de faire barrage au Rassemblement National.
Son changement de bord lui pose une difficulté. Ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, il a coécrit avec l'ex-première ministre la très controversée réforme des retraites qu'il promet aujourd'hui d'abroger. Évidemment, il passe son temps à se justifier.
Ce n'était pas le professeur Nimbus dans son laboratoire avec des éprouvettes pour faire la réforme des retraites. J'étais pas un ministre. Je n'ai pas de problème à dire qu'une réforme des retraites qui serait remise à plat, retravaillée, elle est indispensable.
Une perche tendue à son ancienne collègue et désormais adversaire, la députée sortante et ancienne ministre Nadia Hay, la candidate du camp présidentiel, appuie là où ça fait mal.
Il est en total décalage avec ce qu'il a offert ces deux dernières années, ce qu'il a porté, ce qu'il a défendu et cette investiture qu'il a obtenue de cette NUPES 2.
Mais Nadia Hay aussi a son boulet à tirer.
Je pense qu'Emmanuel Macron est responsable de la montée de l'extrême droite en France.
Soit vous voulez discuter, soit vous voulez pas discuter.
Et quand ça n'est pas Emmanuel Macron dont elle a retiré le visage de ses tracts, elle doit sans cesse expliquer la dissolution.
Il n'aurait pas dû dissoudre.
Mais vous pouvez pas.
Il avait pas écouté, j'en sais rien.
Mais s'il avait pas dissous, on lui aurait dit, il n'a pas écouté les résultats, il voulait enjamber les résultats
exactement
des européennes.
La 7e circonscription des Yvelines pourrait bien être le théâtre d'une surprise dimanche soir. Aux dernières européennes, Rassemblement National et Parti de gauche ont récolté plus de la moitié des voix. Mais dans une élection législative, il y a deux tours. D'abord on choisit, puis on élimine. Le suspense reste donc entier.
Est-ce que vous connaissez Nadia et qui est votre députée sortante ?
En tout cas, je vous ai déjà vu quelque part.
Le reportage de Raphaël Delvolvé dans cette circonscription des Yvelines. Il y a quatre autres candidats, je vous les donne. Adi Kaya pour Lutte Ouvrière, Jacques Lefebvre pour le Parti des Travailleurs, Colette Aubré pour Reconquête et Julien Fréjabu pour les Républicains. 24 heures en France sur RFI, vous écoutez minuit 20 à Paris, 18h20 à Fort-de-France.
Le journal des Outre-mer.
Avec Odan Agiali, et à la une, deuxième jour de grève au CHU de Martinique. Bonsoir Odan.
Bonsoir. Les syndicats dénoncent le manque de personnel, la fermeture de plusieurs services au CHU de Martinique. Ce jeudi matin, les représentants de l'UGTM Santé sont allés à la rencontre du personnel de l'hôpital. Ils réclament la mise sous tutelle de l'établissement, le départ de la direction. Serge Haribaud, le secrétaire général de l'UGTM Santé, avec Ronan Bonnec.
Ce n'est pas simplement un phénomène conjoncturel. Là, on est aujourd'hui dans un embolisement total de cet établissement, incapable de se projeter au-delà de 2 mois, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qui sera ouvert pour la sécurité des patients. Les urgences de Trinité seront fermées, la pédiatrie sera fermée à Trinité, à Mongovulcin, le bureau des entrées est fermé à cause de problèmes de traitement d'air. Nous avons eu un décès aux urgences à Fort-de-France à cause d'un incendie et nous avons, etc., de difficultés pour justifier au niveau des patients, pourquoi les délais d'attente pour avoir un diagnostic, que ce soit en imagerie médicale, que ce soit au laboratoire, que ce soit en oncologie pour les cancers, qu'est-ce que c'est que cette histoire de retard de 2 mois pour avoir un diagnostic ?
Le secrétaire général du syndicat UGTM Santé en Martinique. Après 1 an d'absence, Air Antilles a retrouvé cette semaine le tarmac de l'aéroport de Gustavia à Saint-Barthélemy. La compagnie aérienne avait été placée en redressement judiciaire avant de trouver repreneur. Air Antilles qui espère bien donc retrouver aujourd'hui sa place sur la ligne Pointe-à-Pitre Gustavia. Et le directeur de l'aéroport de Saint-Barth voit le retour de la compagnie comme un bol d'air aussi pour les habitants. Fabrice Danet.
Je pense que c'est un soulagement bienvenu pour la population qui, sur les derniers mois, a dû effectivement explorer d'autres liens de déplacement, aussi pour les visiteurs. Et ça a même stimulé d'ailleurs un petit peu la concurrence. Donc Air Antilles, comme vous le dites, est une compagnie historique et les liaisons avec Pointe-à-Pitre représentent effectivement 15% du trafic global de la plateforme. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un retour attendu, un redécollage attendu. En 2019, qui est la dernière bonne année de référence, en fait, on a pu enregistrer sur la liaison directe avec Pointe-à-Pitre et Saint-Barth, en fait, environ 32 000 passagers. 32 000 passagers, je pense que ça a été d'un niveau assez conséquent. Sur l'année 2022, on est redescendu environ à 27 000 passagers. Et là, globalement, effectivement, avec la suspension des vols d'Air Antilles, on a perdu environ 70% de trafic de passagers, là, notamment sur les 5 premiers mois.
Fabrice Danet, le directeur de l'aéroport de Saint-Barthélemy avec Eric Stimpfling de Guadeloupe la Première. Et puis le premier tour des élections législatives anticipées, c'est ce dimanche en Nouvelle-Calédonie. L'organisation du scrutin est perturbée par le regain de tensions sur l'archipel ces derniers jours, notamment dans la province des îles Loyauté. À Lifou, l'absence de liaison aérienne et maritime oblige de nombreux électeurs à faire des procurations pour ces élections. Passage obligé pour celles et ceux qui votent en dehors de l'île. Alors à Luchela, une association de jeunes propose d'accompagner les habitants de la tribu dans leur démarche. Reportage Clarisse Rouillet-Watoué.
Première étape, c'était de créer ton espace NC Connect. Et une fois que l'espace NC Connect sera validé dans quelques instants, on pourra revenir sur la page de ma procuration pour que tu puisses faire les démarches toi-même sur eux.
D'accord. Oui.
Le spécialiste de la procuration en ligne, c'est lui. VM Olé, le secrétaire adjoint de l'association Ouf et Ouf, association des jeunes de Luechila et de Napalou. Un accompagnement proposé aux habitants de ces deux tribus, matériel et connexion Internet, sont également mis à la disposition des bénéficiaires.
Quand on n'a pas l'habitude de manipuler du matériel informatique, ben, c'est sûr que c'est beaucoup plus laborieux. Et du coup, ben, on a décidé de rendre ça un peu plus facile d'accès, puis moins compliqué. On continue à appeler la population à venir faire leur procuration.
Athanaël a sollicité l'association afin de l'aider à faire sa procuration en ligne. Elle ne pourra pas se rendre à son bureau de vote lors des législatives. Hors de question pour la jeune femme de 20 ans de ne pas participer à ce scrutin.
Avec le bateau qui est parti au carénage, je ne pouvais pas aller sur marée pour voter. Du coup, j'ai décidé de faire ma procuration ici. C'est important pour moi de participer à ce vote car c'est notre pays qui est en jeu.
Chaletiev vote à Païta, faire sa procuration en ligne, une démarche qu'elle ignorait jusqu'à présent.
Moi, je voulais faire via la gendarmerie. Je ne savais pas qu'on pouvait faire en ligne. Ben maintenant, je vais parler autour de moi, à tous mes petits frères et mes petites sœurs, comme quoi ben, on ne peut pas se déplacer, mais on peut le faire en ligne.
Il faudra tout de même vous déplacer en gendarmerie pour la vérification de votre identité et pour la validation de votre procuration.
Reportage Nouvelle-Calédonie, la première, Clarisse Rouillet-Watoué. Et c'est la fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci beaucoup, Odane Naji Ali. Bonne soirée à vous aussi, minuit 25 à Paris.
Le Conseil Santé avec Sumo Assurance.
Le Conseil Santé de 24 heures en France sur RFI pour prendre soin de vous et soin de vos proches. Et on revient précisément sur la santé maternelle avec vous, Caroline Paré.
Dans Priorité Santé aujourd'hui, un reportage long format signé Charlie Dupio consacré à la santé maternelle et infantile au Cameroun. Bonjour Charlie.
Bonjour Caroline.
Alors vous êtes rendue dans deux maternités, dont l'une des plus importantes, des plus grandes de Yaoundé, celle dite du CAS, le Centre d'Animation Sociale et Sanitaire.
Oui, 4000 accouchements sont réalisés là-bas chaque année. J'y ai rencontré plusieurs soignants, comme la major sage-femme ou la chef des sages-femmes, Karine Gnassa.
Bon, actuellement, on est vraiment dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, vraiment dans la lutte. Qu'il y a une maternité, tu dois avoir un bloc opératoire, tu dois avoir un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24, tu dois avoir une banque de sang. Quand tu as tout ça réuni, tu peux facilement lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Mais quand un te manque, le temps d'aller chercher, ça peut être comme nous actuellement, notre banque de sang n'est pas encore opérationnelle.
Alors, à quelles difficultés les maternités camerounaises font-elles face pour réduire cette mortalité maternelle et infantile? Et qu'est-ce qui peut être mis en place très concrètement pour améliorer la prise en charge des mamans et de leurs nouveau-nés? Votre reportage, Charlie Dupio, à 9h10 et 1h10 dans Priorité Santé, bien sûr, et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Rendez-vous est donc pris. Merci beaucoup, Caroline Paré.
Suivez l'actu en images sur les comptes Instagram de RFI.
Et c'est ainsi que se referme cette édition de 24 heures en France, votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité française aux manettes. Ce soir, Fabrice Violet, merci à lui. Le retour de l'actualité, c'est dans un peu plus de 2 minutes. Afrique Soir avec Zéphirin Quadio. Et on sera en Mauritanie, dernières heures de campagne électorale pour la présidentielle. Mais en attendant, comme tous les soirs, à cette heure-ci, minuit 27, ici à Paris, petit détour à la Bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec vous, Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones grappille 37 points et revient à 39 164. L'indice du Nasdaq, de son côté, arrache 54 points pour atteindre 17 859. La tendance reste bien fragile car la principale information attendu par les investisseurs, tombe demain vendredi. Il s'agit de l'indice des prix des dépenses de consommation des Américains au cours du mois de mai. C'est la mesure préférée de l'inflation par la Banque centrale américaine. Les investisseurs espèrent que la hausse des prix sera infime, ce qui conforterait leur espoir d'une première baisse de taux directeurs par la Fed au mois de septembre. Encore faudrait-il aussi que l'inflation en juin et en juillet donne également des signes de repli. En attendant, les chiffres du jour sont compatibles avec un ralentissement de la conjoncture américaine. Le nombre d'inscrits au chômage remonte ainsi au plus haut depuis 2 ans et demi, mi-juin. En outre, les commandes d'équipements, à l'exception des équipements militaires et des équipements aéronautiques, chutent de 0,6%. Voilà qui aide le rendement du T-bond à 10 ans à retomber à 4,29. Walgreens est frappé par la catastrophe du jour. La chaîne de drugstores met en garde contre un nouveau recul de ses profits. Elle prépare la fermeture d'un grand nombre de ses 8700 magasins. L'action s'effondre de quelque 23%. L'euro remonte à 1,0701. On remarque que l'écart entre les rendements des obligations d'État françaises et allemandes grandit à nouveau. Le baril américain de pétrole regagne plus d'1% et clôture à près de 82 $. Le Dow Jones aujourd'hui avance de moins de 0,1% et le Nasdaq arrache 0,3%.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Fille de Roger Bambuc et Ghislaine Barnet, athlètes olympiques, Aurélie Bambuc consacre un livre à ses parents, couple de champions, titre de son récit. L'exemple de deux pionniers antillais à rappeler quelques jours avant les prochains JO qui se tiennent bientôt en France.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.